Vous écoutez France Culture.
Les lundis de l'histoire présentés aujourd'hui par Roger Chartier. En février 1723, en Angleterre, un décret royal déclare qu'un grand nombre d'individus agités et mal intentionnés s'étaient associés sous le nom de Blacks dans les comtés du Berkshire et du Hampshire. Ces Blacks étaient armés, faisaient intrusion dans les forêts et les parcs, tuaient et emportaient des cerfs, sauvaient des criminels des mains de la police, envoyaient des lettres de menaces aux notables locaux pour leur réclamer argent et gibier, menaçaient de tuer ou de brûler des maisons, des granges, des meules. Ils avaient attaqué plusieurs personnes, leur avaient tiré dessus chez elles, avaient mutilé leurs chevaux et leur bétail, défoncé leurs portes et leurs clôtures, abattu des arbres dans leurs allées et dans leurs plantations, démoli les chaussées d'un vivier, volé du poisson. Devant ces désordres, la réponse du Parlement anglais fut sans merci. Un statut voté à l'unanimité punissait désormais de mort toute personne, je cite le texte, armée d'épée, d'armes à feu ou de toute autre arme offensive ayant le visage noirci. Toute personne donc qui portait atteinte aux personnes et aux propriétés des sujets de Sa Majesté en braconnant dans les forêts royales et dans les parcs aux cerfs de l'aristocratie. Comprendre les raisons, les significations d'une législation si brutale, si inhumaine, qui mettait la vie des cerfs, des chasses royales au-dessus de celle des habitants des forêts, fut l'objet d'un livre, d'un grand livre, de l'historien anglais Edward Thompson, un livre publié en 1975. Il avait pour titre « Whigs », du nom du parti du Premier ministre, Walpole, du défenseur des droits du Parlement, contre les Stuarts, « Whigs and Hunters » et les chasseurs. Et il avait pour sous-titre « L'origine du Black Act », cet acte terrible de 1723. C'est sous ce nom-là, en effet, qu'était désigné le statut voté par le Parlement contre les délinquants au visage masqué ou au visage noirci. Ce livre est aujourd'hui accessible en français, dans une traduction abrégée, sous le titre « La guerre des forêts, lutte sociale dans l'Angleterre du XVIIIe siècle ». Il a été traduit par Christophe Jacquet et il est publié dans la collection Futurs Antérieurs de La Découverte. Sa publication est, je crois, pour nous une très belle occasion pour faire retour sur l'œuvre d'Edward Thompson, qui, malgré le temps qui nous sépare d'elle, a gardé tout à fait intacte sa vitalité, sa flamboyance et, on le verra, son actualité. Pour le faire, sont réunis aujourd'hui deux historiens qui ont lu, et pour l'un d'entre eux, très bien connu, Edward Thompson. Il s'agit d'abord de Philippe Minard, professeur à l'Université Paris 8, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui présente, qui commente dans une très riche postface intitulée « Les dures lois de la chasse », l'ouvrage de Thompson, qui se trouve ainsi replacé dans le contexte de sa publication et aussi dans l'histoire de sa réception. Et d'autre part, il s'agit de Patrick Fridançon, lui aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, historien du travail, historien des entreprises, qui a connu Edward Thompson, auquel il a adressé un très émouvant adieu dans les pages de la revue, de sa revue, Le Mouvement Social, lors du décès de l'historien anglais en 1993. Alors, Philippe Minard, on peut commencer quand même d'un mot, même si on y reviendra plus tard avec plus de détails, sur l'objet même de ce livre, Whigs and Hunters, traduit comme la guerre des forêts. De quoi s'agit-il ?
Le point de départ peut paraître anecdotique. Un acte du Parlement anglais qui décide de criminaliser des formes de braconnage. Mais derrière ce qui peut sembler un point de détail, bien que pour les acteurs, ce ne soit sans doute pas un point de détail, dans la mesure où les braconniers étaient passibles de la peine de mort, ce qui était d'une rare brutalité, comme vous l'avez dit. Derrière cette histoire, l'objet de Thompson est de rendre raison d'actions populaires de type quasi-insurrectionnelles qui se sont cristallisées dans les années 1720, avec les attaques contre les parcs et les chasses réservées, la mise à mort des cerfs. Tout cela, il veut montrer que ce ne sont pas des actions désordonnées ou incompréhensibles, irrationnelles, mais qu'ils expriment la protestation de ceux qu'on peut appeler les dépossédés, puisque derrière le braconnage et l'attaque contre l'animal emblématique du pouvoir seigneurial, le cerf, du pouvoir seigneurial et du pouvoir royal, c'est-à-dire du pouvoir aristocratique, l'art cynégétique étant la quintessence même du loisir aristocratique au XVIIIe siècle, derrière cela, donc, il y a des protestations contre le processus d'enclôture qui est en train de conquérir peu à peu le paysage rural anglais, et une protestation contre une forme de dépossession d'usage qui était très très ancien, qui ressortissait à la coutume et dont les acteurs paysans considèrent qu'ils font partie de leurs droits. Et donc, c'est un bouleversement du monde social contre lequel ils protestent de cette manière, qui est peut-être la seule accessible pour eux, le braconnage.
Alors, la question qu'ils posent, et qu'on va laisser en suspens pour essayer de suivre ces réponses un peu plus tard, c'est cette question de comment on passe de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire des actes de transgression, des actes parfois de rébellion, à une loi. Je cite le texte d'Edward Thompson. « Comment se fait le saut du constat d'une algarade entre contrebandiers et gardes-chasse, avec mort d'un ou deux de ces derniers, crimes contre lesquels le droit offrait déjà des réponses suffisantes, à la conclusion qu'un vivier à poissons où un jeune arbre avait la même valeur que la vie d'un homme ?» Puisque, pour terminer sur cette présentation d'ensemble, Guillaume Minard, ce texte terrible de 1723 ne pense pas seulement au braconnage, mais tout un autre ensemble de ce qui est désormais qualifié de délit et qui se lie avec ces droits coutumiers dont vous venez de parler.
En effet, c'est le point de départ d'une efflorescence législative tout à fait stupéfiante. Certains historiens du droit ont qualifié la période de constitution du code pénal le plus sanglant qui ait jamais existé, qui criminalise toute une série d'atteintes aux biens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, à partir de cette date, cette efflorescence législative qui punit de la peine de mort un certain nombre d'actions, sanctionne non pas l'atteinte aux personnes, mais désormais c'est l'atteinte aux biens. Et donc il y a une forme de cristallisation, de sanctification de la propriété qui est derrière cela. Mais je pense que nous pourrons y revenir tout à l'heure.
Tout à fait, parce que je crois que, Patrick Fondation, il nous faut maintenant dresser un portrait d'Edward Thompson, et particulièrement à partir de ce 1975, date de la publication de ce livre. Je crois qu'à ce temps-là, Edward Thompson est d'abord, pour le monde des historiens, ou pas forcément dans sa totalité, mais l'auteur d'un livre étonnant, d'un livre d'une radicale nouveauté, qui est un livre qui fut publié en 1963, « La formation de la classe ouvrière anglaise ».
Alors là, c'est un livre qui a été un coup de tonnerre dans le ciel de l'histoire sociale, coup de tonnerre en Grande-Bretagne, avec deux idées de base qui sont devenues extrêmement fortes. La première était celle d'expérience, qui était tout à fait une façon de montrer que la relation des travailleurs à leur travail, au monde, n'était pas seulement quelque chose qui était fondé sur l'économie, mais qui était aussi fondé sur la culture, sur le droit, sur les relations démographiques. Et l'autre concept qui caractérisait ce livre était celui d'économie morale, qui apparaît déjà dans le livre de 1963, et qui montrait que les acteurs n'étaient pas seulement mus par des rapports de force, mais se faisaient une idée de ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. Et on trouve dans la formation de la classe ouvrière en Grande-Bretagne, avec les yeux d'aujourd'hui, un troisième concept qui est là tout à fait clairement, qui est celui de capacité d'action, ce qui est en anglais « agency ». Mais voilà, ces trois termes « expérience », Économie morale et capacité d'action sont présents en 63, et sans pratiquer le culte de la personnalité, je dois dire que aujourd'hui encore, nous avons une dette à l'égard d'Edward.
Et évidemment, ce qui était la cible de cette construction, c'était aussi ce qu'il appelle souvent un économisme assez brutal et réifiant, qui soit découlait la conscience de classe et la formation de la classe directement des conditions sociales et économiques de la production, dans une version du marxisme, ou d'un autre côté, ce qui pouvait avoir été les premiers pas des années 30 d'une histoire sociale quantitativiste qui multipliait statistiques et séries. Juste peut-être pour donner aux auditeurs une idée de ce coup de tonnerre dont parlait Patrick Fridençon, et pour revenir sur les deux des notions qu'il a données, ce passage qui est dès l'introduction du livre de Thompson, 1963, il a été traduit très tard, on reviendra peut-être là-dessus, en 1988 seulement, en français, il est accessible maintenant dans un livre de la collection Point du Seuil, publié en 2012, c'est un livre de poche, mais enfin il faut une grosse poche, parce que c'est un livre de plus de 1000 pages, donc, mais néanmoins, accessible. Je cite Thompson, « On peut parler de classe lorsque des hommes, à la suite d'expériences communes, qu'ils partagent ou qui appartiennent à leur héritage, perçoivent et articulent leurs intérêts en commun et par opposition à d'autres hommes dont les intérêts diffèrent des leurs et en général s'y opposent. L'expérience de classe est en grande partie déterminée par les rapports de production dans lesquels la naissance ou les circonstances ont placé les hommes. » La conscience de classe et la manière dont ces expériences se traduisent en termes culturels et s'incarnent dans des traditions, des systèmes de valeurs, des idées et des formes institutionnelles. Ce qui renvoyait à la première phrase du livre, le titre de ce livre est maladroit, mais il a le mérite d'être adéquat. Le mot « formation »,« making », indique que l'objet de cette étude est un processus actif, mis en œuvre par des agents, et on retrouve ce que disait Patrick Fridençon, mis en œuvre par des agents, tout autant que par des conditions. La classe ouvrière n'est pas apparue comme le soleil à un moment donné, elle a été partie prenante de sa propre formation. Alors, c'était là la nouveauté, la conscience de classe comme le résultat, non pas directement comme une conséquence mécanique de conditions économiques et sociales, mais la conscience de classe comme façonnée par des perceptions qui donnent unité à des expériences.
Alors, il y avait dans cela un élément qui m'avait énormément frappé quand j'ai fait une sélection des principaux aspects de ce livre dans la revue Le Débat en 1980, c'était l'importance donnée, dans le lien de ce que vient de dire Roger Chartier, aux questions religieuses, et en particulier au méthodisme. Il faut penser que Thompson était familialement très lié à ces questions, puisque son père avait été missionnaire à un moment donné, sa mère, qui était une Américaine, était aussi missionnaire à un moment donné, mais foncièrement, les religions, puisque c'est les religions protestantes en particulier, n'étaient pas considérées comme une illusion, un quelconque forme d'opium, mais était considéré comme un horizon, un outil, une motivation pour les catégories populaires. Et donc, en ce sens-là aussi, ce livre était une rupture avec une partie de l'historiographie marxiste.
Philippe Minard.
Oui, tout à fait. Au fond, dans l'historiographie marxiste traditionnelle telle qu'elle a existé en France, mais aussi en Angleterre, on avait d'un côté une double tentation, en quelque sorte. D'un côté, une tentation essentialiste. On posait une définition a priori de la classe ouvrière comme pivot pour une enquête chargée d'apporter les preuves sur son bien fondé ultérieur. On partait d'un viatique, le vrai prolétaire. Ou bien alors une tentation d'ordre généalogique, dans laquelle la naissance tenait lieu de logique sociale explicative du réel, et on était voué à une sorte de régression ad infinitum, recherchant l'origine de l'origine. Avec Thompson, on peut ouvrir une nouvelle façon de regarder qui intègre le facteur culturel, qui intègre le facteur politique aussi, les éléments de politisation et de politisation à rebours aussi, lorsqu'il montre que c'est aussi la répression qui façonne l'expérience et la conscience de classe. Mais il s'agit bien d'analyser les conditions de production des agents au travers des formes multiples, spécifiques, des différents systèmes de régulation, de catégorisation dans lesquels ils sont pris. Et cela vraiment ouvre une nouvelle perspective, beaucoup plus souple, beaucoup plus ample, celle que Pierre Bourdieu reprend à un certain moment lorsqu'il parle d'espace social et de jeunesse des classes, et analysant le passage de la classe sur le papier à la classe en acte, montrant que c'est la classe mobilisée qui est la classe.
Alors, peut-être un peu, puisque vous avez déjà suggéré ce lien familial de Thompson avec le méthodisme, effectivement, dans le livre, mais aussi dans beaucoup d'articles de Thompson, le méthodisme joue un rôle, d'ailleurs parfois ambigu, de ressource pour la construction de la classe ou d'éléments pour imposer la discipline. Thompson était né donc en 1924. Il y a plusieurs expériences fondamentales dans sa trajectoire, la guerre, le Parti communiste, mais c'est aussi un homme de rupture. Dans votre très bel hommage, l'adieu à Thompson, vous dites qu'il avait une fierté ombrageuse, repris par Philippe Minard dans sa présentation. Alors cette fierté se traduisait par des ruptures assez violentes, non ?
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est à la fois un homme qui est un homme du collectif, et il a passé un nombre considérable d'années à être l'animateur des deux versions du profond mouvement antinucléaire qui a marqué la Grande-Bretagne comme il a aussi marqué l'Allemagne, et qui, tout en existant en France, n'a jamais eu la même importance qu'il a eu en Grande-Bretagne. Et en même temps, c'était un homme qui n'acceptait pas facilement les positions majoritaires, et donc qui ruait dans les brancards. Alors, ça se voit tout de suite. Il arrive au Parti communiste à l'âge de 18 ans, en 1942. Mais ça se voit aussi après la guerre qu'il fait comme soldat, et qu'il fait vaillamment, où il va aller voir la Yougoslavie. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas exactement la même chose que s'il avait choisi d'aller s'installer à Moscou en 1946 ou 47. Et sa vie va être marquée par une série de ruptures. Il va quitter le Parti communiste anglais en 1956. Il va créer une revue politique et intellectuelle très peu de temps après, mais il va se trouver en minorité, participer à un autre mouvement, être de nouveau en minorité. Et c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il avait d'abord une capacité de discussion, et là, de ce point de vue-là, ce n'était pas un homme autoritaire ni arrogant, tout en étant fier, capacité de discussion qui se manifestait à l'époque par des lettres. Il écrivait énormément, il réagissait, il écrivait aussi aux journaux, et on a toute une série de ses réponses aux journaux qui sont publiées dans les courriers des lecteurs. Il écrivait aux revues, mais il écrivait des lettres sur les travaux des autres, et ça ne l'amenait pas à une attitude de clan. C'est quelqu'un qui, tout en travaillant pour une série de ses livres avec un certain nombre de ses disciples, a promu des gens qui étaient très différents de lui.
Mais alors, Gant a publié en 1975 ce livre que vous avez traduit, Philippe Minard. Il n'est déjà plus membre du corps académique de l'université. Il était entré à l'université de Warwick en 1965. Le livre, d'une certaine manière, découle de travaux menés à l'université avec ses étudiants. Mais autre rupture, Patrick Fridançon évoquait la rupture avec le Parti communiste après Budapest. Il a rompu avec cette New Left Review en 1962. Et il a rompu avec l'université où il était entré en 1965, en 1971.
Oui, auparavant, il avait enseigné principalement dans des cours du soir pour adultes. Et c'était une forme d'engagement à la fois pédagogique et militant. Caen, dans le Yorkshire, où il enseignait d'ailleurs non seulement l'histoire, mais aussi la littérature et la poésie, ce qui est une dimension importante de sa culture et de, du personnage. Et, mais il est recruté par l'université de Warwick, qui vient de se créer, qui est une de ces nouvelles universités de la vague de la génération des Trente Glorieuses, si l'on veut. Il entre en 1965 et on lui donne tout de suite la direction, c'est pour ça qu'on l'a recruté, du centre pour de recherche en histoire sociale. Et là, il va rassembler un certain nombre de disciples, notamment Douglas Hay, et les gens qui vont avec lui écrire un livre qui paraît la même année que Wigs and Hunters, dont j'imagine nous reparlerons. Et, mais très vite, il entre en opposition avec la direction de l'université de Warwick et c'est un thème très actuel. Il proteste contre le fait que l'université est vendue aux intérêts privés parce qu'elle dépend de formes de financement qui l'obligent à un certain nombre de compromissions à ses yeux, de compromis aux yeux de l'université, mais de compromissions aux yeux de Thomson, avec l'agenda des actionnaires privés qui financent l'université. C'est pour lui insupportable. Il publie un pamphlet en 1971 et quitte l'université. Et après, il devra vivre plus ou moins difficilement de sa plume et de ses conférences.
On peut rappeler aussi, Paris Financement, que le premier livre qui est antérieur à, évidemment, cette coup de tonnerre de la formation de la classe ouvrière anglaise, était publié en 1955 et était consacré à William Morris, c'est-à-dire un socialisme utopique. Le sous-titre était « Du romantique au révolutionnaire ». C'est presque un autoportrait, non ?
C'est lui, c'est tout à
c'est
fait lui.
C'est tout à fait lui et il y a toute une série de dimensions que l'on va retrouver ensuite. Première dimension, l'écriture. Thomson, c'est une écriture extraordinaire. Alors, c'est pas du tout, et il n'y a pas pour moi de hiérarchie de valeur, une écriture stricte et très politique comme l'est l'écriture de Eric Hobsbawm, mais c'est une écriture qui emprunte, comme l'a dit un peu à l'instant Philippe Minard, qui emprunte au registre de la poésie, au registre de la littérature, et une écriture qui réussit à faire passer toute une série d'idées, de connaissances, par le prestige du verbe.
Et d'autres... Il est extrêmement difficile à traduire, du coup. C'est un exercice très périlleux que de traduire Thomson.
Absolument. Et l'autre aspect, c'est que William Morris, c'est à la fois un homme qui fait... qui a des convictions politiques, mais c'est aussi quelqu'un qui est très lié au milieu de l'art, qui est très lié au milieu de toutes sortes de nouvelles esthétiques qui sont en cours. Et donc, en prenant ce sujet-là, Thomson exprime à la fois ses passions, sa vision du monde et son originalité.
Alors, avant de conclure cette première partie, cette première séquence de notre émission, revenons d'un mot sur des notions qui sont sous-jacentes à toute l'œuvre, depuis la formation de la classe ouvrière anglaise jusqu'au livre sur Whigs and Hunters. C'est-à-dire d'abord la notion qui va avoir tellement de succès, de traduite comme histoire par en bas, history from below. Et c'est pour la première fois dans un compte-rendu du Times Literary Supplement qu'il utilise cet expression. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et quel rapport avec les enquêtes menées à Warwick du temps où il était professeur, entre 65 et 71, et qui vont donner lieu à ces deux livres que nous évoquons, celui que vous avez traduit dans la collection que vous dirigez, Philippe Minard, et puis cet autre livre qui a pour sous-titre « Crimes et sociétés dans l'Angleterre du XVIIIe siècle ». Qu'est-ce que c'est dans la pensée de Thomson, l'histoire vue par en bas, à partir d'en bas?
Il l'explique dans l'article du TLS en 1966 et il reprend cela ensuite. Hobsbawm largement le fera. Il s'agit de rompre avec une histoire qui prendrait comme prisme principal les institutions et les grands hommes et pour privilégier une histoire des appropriations, une histoire des logiques d'action populaire, des pratiques. cela se comprend dans le contexte de ce qu'était l'historiographie du XVIIIe siècle britannique à l'époque où Thomson travaille. Le poids de l'héritage de ce qu'on appelle le namierisme, c'est-à-dire l'héritage du grand historien politiste Lewis Namier, pesait très très fortement sur l'histoire du XVIIIe siècle. C'était une histoire des grands hommes politiques, de l'action politique réduite à l'arène de la cour et du Parlement et des couloirs du Parlement. Et c'est une affirmation militante et politique de la part de Thomson, le fait de rompre avec cela. L'expression n'est pas tout à fait inédite dans la mesure où Georges Lefebvre, en 1932, dans un hommage ambigu à Albert Mathiez, reprochait à Mathiez d'avoir une conception de l'histoire de la Révolution française qui n'était pas assez par en bas et trop par en haut, ce qui était légèrement paradoxal et ironique.
En même temps, on n'a pas, en dehors de ce fameux article, il n'y a pas tellement de textes où Thomson utilise le terme d'histoire par en bas. Et pourquoi ? C'est qu'au fond, tout en reconnaissant qu'il y a que la culture est plurielle et qu'il y a toutes sortes de niveaux de présence à la culture, à la société et à la politique, l'idée qu'il y ait une hiérarchie, soit naturelle, soit imposée, était quelque chose qui lui était profondément étranger. Et donc, il a employé ce terme pour marquer la rupture que vient de signaler Philippe Minard, mais les divisions qui ont été faites au moment de ce qu'on a appelé, à la suite de son livre, la nouvelle histoire sociale, entre le en haut et en bas, lui était assez profondément étrangère.
Mais alors du coup, est-ce que c'est pas, on le retrouvera dans les deux grands articles qu'il publie dans la revue Past and Present, en 1967 sur le temps, et en 1971 sur cette notion que vous avez déjà introduite, Patrick Fridançon, l'économie morale. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement un déploiement théorique, c'est d'analyser, comme vous l'avez rappelé, les perceptions et les logiques des comportements populaires, enfin les perceptions populaires des catégories et d'autre part les logiques de conduite dans des mouvements qui pouvaient paraître comme désordonnés, violents, incohérents et qui en fait, comme le montre l'article de Past and Present de 71, ont une profonde rationalité qui est celle d'une économie morale opposée à une économie immorale. Du marché brutal, ou bien dans le cadre de l'article sur 1967, temps, travail et capitalisme industriel, de montrer que l'appréhension par les ouvriers des manufactures du temps est à la fois héritée de tradition, mais en même temps modelée par une nouvelle discipline. Alors du coup, est-ce que l'histoire vue d'en bas ne mérite pas nécessairement de longues explications théoriques, mais elle est à l'œuvre dans ces deux articles fondamentaux ?
Il y a dans ce thème, chez Thomson, l'idée qu'il n'y a pas des objets nobles pour l'histoire, que les conduites des foules, et les foules ont été très dévalorisées par un des premiers sociologues français, Le Bon, à la fin du 19e siècle, mais aussi le fait de ne pas venir à l'heure, de chômer le lundi. Et Thomson est un de ceux qui popularise chez les historiens le thème de la Saint-Lundi, mais que les salariés connaissaient bien longtemps, depuis bien longtemps pour l'avoir pratiqué. Il y a l'idée que toutes sortes de conduites qui ne sont pas strictes, qui ne sont pas réglées, qui sont déviantes, qui sont spontanées, méritent notre attention parce qu'elles sont des endroits où s'exprime non pas seulement la violence, mais au fond des codes, des ensembles moraux, des façons de transformer les coutumes qui sont quelque chose qui viennent très profondément du vécu, des appartenances religieuses, des choix moraux des personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, même s'il y a eu des discussions à propos de la place des femmes dans l'œuvre de Thomson.
Mais alors un mot encore sur ce concept d'économie morale qui illustre ce que vient de dire Patrick Fridançon. Quelle est la signification d'économie morale dans cette perspective de Thomson ?
Il veut montrer que la foule a ses raisons lorsqu'elle agit, et le point de départ de son analyse, c'est l'économie morale de la foule, et l'expression doit être prise comme un bloc, et il s'agit de relire les émeutes frumentaires qui ont agité l'Angleterre, mais aussi la France au XVIIIe siècle, pour comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une réaction primitive, pulsionnelle, émotive, désordonnée contre la cherté des grains qui conduit à piller les greniers, mais il montre qu'au contraire, l'action de la foule est une action rationnelle, raisonnée, et qu'elle repose sur des principes de justification et de légitimation très très profondément ancrés dans les mentalités. L'économie morale de la foule, c'est l'idée que les institutions, les autorités doivent au peuple un certain nombre de principes, et que parmi ces principes de justice qui rendent la vie possible, il y a assurer la subsistance. Et lorsque les limites sont dépassées quant au niveau des prix et que ces prix deviennent insoutenables, alors les autorités doivent agir. Et si elles n'agissent pas, alors la foule remplacera, suppléera les autorités. Et donc l'action n'est pas du tout lue en termes tels que Le Bon s'interrogeant sur l'esprit des foules, de violence désordonnée. Mais cela correspond à la mise en pratique d'un certain nombre de choses. Et c'est ce programme-là que Thompson poursuit avec ses étudiants lorsqu'il est à Warwick, à propos de ce qu'on appellera à sa suite la criminalité sociale. C'est-à-dire, il s'agit de montrer que dans un certain nombre d'actions populaires qui sont passibles de la justice, il y a en deçà des principes de justification et un moteur profond qui est le sens du juste.
Alors, tout dernier mot, tous les textes dont nous venons parler de Thompson ont été traduits en français extrêmement tardivement. L'article sur le temps, 1979, l'économie morale, 1988, la formation de la classe ouvrière anglaise, 1988. Donc, si on revient à 1975... le moment de la publication du livre dont nous parlons aujourd'hui, Thompson est connu, mais dans une limite très forte dans le cas français. Est-ce que vous pouvez rappeler d'un mot cette première réception forte, mais en même temps timide ?
Alors, la première réception suit un itinéraire qui est tout à fait surprenant. La première mention de Thompson en français, c'est le livre d'un marxiste allemand, Jürgen Kuczynski, historien de l'économie, qui fait un petit livre dans une collection de vulgarisation de l'histoire publiée par Hachette sur les origines de la classe ouvrière. Ensuite, on le trouve en 1968 au bas d'une page de l'historien français qui a beaucoup fait pour connaître la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne du XIXe siècle, François Bédarida. Et le premier article en français, Rough Music, le Charivari, vient d'un colloque sur le Charivari qui est organisé par Jacques Le Goff. Et c'est Jacques Le Goff qui l'apporte aux annales avec un autre article sur le Charivari. Donc c'est une réception faible et désordonnée. Et les choses vont changer au fond de deux manières différentes. La première, c'est à l'université de Vincennes, il y a un groupe de jeunes enseignants qui se passionnent pour Thompson et qui étudie le livre en séminaire de semaine en semaine.
La formation de la
classe ouvrière, donc son deuxième livre, et qui vont le traduire. Parmi eux, il y a Marie-Noëlle Thibault, qui est une historienne de l'économie et qui, aujourd'hui, à la retraite, est devenue romancière et grande spécialiste de romans policiers sous le pseudonyme de Dominique Manotti. Et c'est de cette lignée-là que naissent des liens avec Miguel Abinsour, philosophe du politique, et qui va être à l'origine de la traduction de l'article sur le temps de travail dans Libre, et à l'origine aussi du désir de publier la traduction. Et le deuxième élément est complètement différent. C'est la création par un historien de l'école des hautes études, Georges Haupt, de tables rondes internationales d'histoire sociale qui vont se réunir pendant 3 ans, essentiellement en France, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis, et où Thompson, un historien américain qui l'a connu à Warwick, David Montgomery, Eric Hobsbawm, Pierre Bourdieu, Michel Perrault et quelques autres vont discuter des thèmes de la nouvelle histoire sociale. Et cela, ça va expliquer qu'il y aura ensuite, par Yves Lequin et par d'autres, une lignée de connaissances de Thompson en France. Mais derrière tout cela, il y a la Maison des Sciences de l'Homme, il y a ce personnage curieux de ce qui se fait dans le monde entier, c'est-à-dire Clemens Heller. Et lors de la première table ronde, je cite cette histoire parce qu'elle montre aussi à quel point il y avait un rapport entre passé et présent, Clemens Heller, qui a financé la création d'actes de la recherche en sciences sociales, qui paraît la même année, le présente à Thompson et à Hobsbawm en disant « Voilà, je vous présente le Charlie Hebdo des sciences sociales. » Tête souriante quand même de Pierre Bourdieu qui est dans la salle.
La musique que nous venons d'entendre est le choral The Lamb, l'agneau, composé par John Tavener, un musicien anglais mort en 2013. Cette partition date de 1982. Elle n'a pas été choisie par hasard, puisque The Lamb est un poème de William Blake. Et le dernier livre d'Edward Thompson, publié quelque temps après sa mort, était consacré au grand poète Blake, comme le premier était consacré à Maurice. Et on retrouve un thème qui est évoqué par Patrick Fridenson sur les liens entre l'historien anglais Edward Thompson, qui est l'objet même de notre émission d'aujourd'hui, son lien avec la littérature et aussi, dans ce cas-là, la forme chorale avec des formes de la musique religieuse. L'émission, donc, je le rappelle, est consacrée à la traduction qui vient d'être publiée d'un livre d'Edward Thompson, « La guerre des forêts, lutte sociale dans l'Angleterre du XVIIIe siècle ». C'est un livre publié à La Découverte avec une importante postface de Philippe Pinard. Et donc, Philippe Pinard, revenons donc à ce livre, 1723, « Des troubles dans les forêts anglaises », une réponse du Parlement qui criminalise sous la forme de la peine de mort possible, toute une série de délits qui paraissent pour certains d'entre eux extrêmement mineurs, non seulement le braconnage, mais aussi des attaques contre les viviers, la cueillette de bois mort, etc. Donc le livre de Thompson, c'est pourquoi, comment comprendre cette disproportion pour nous entre la peine de mort, la peine capitale, et des délits qui n'en étaient pas pour ceux qui les commettaient, au moins pour beaucoup d'entre eux, et qui, d'autre part, lorsqu'ils étaient des délits, des transgressions, paraissaient extrêmement mineures.
Cet acte s'inscrit dans un double contexte. D'abord, celui des années 1710-1720 en Angleterre. On est dans l'après-révolution de 1688, dans une phase de stabilisation. Les Whigs, les représentants des intérêts propriétaires et marchands, principalement, sont au pouvoir depuis 1714. Et ils ont à faire face à une vague d'impopularité, de désordre, d'insécurité, dirions-nous aujourd'hui, avec un certain regain du banditisme sur les routes, grande incertitude économique liée à certains scandales financiers, le scandale de la Compagnie des Mers du Sud en 1721, le regain d'une agitation de type dite jacobite ou papiste, c'est-à-dire des partisans du retour de l'ancienne dynastie Stuart qui a été détrônée en 1688-1689. Donc un climat d'incertitude de politique qui pousse le pouvoir à vouloir marquer sa préséance et frapper les esprits. Et le prétexte va en être donné par ces actions de braconnage qui atteignent des forêts qui ne sont pas n'importe quelles forêts. Ce sont ce qu'on appelle des forêts royales, c'est-à-dire des zones qui sont soit boisées, soit des zones d'agriculture, mais qui sont dites royal au ce sens où s'applique un droit forestier spécifique pour avoir le droit de chasser, pour avoir le droit d'accéder au gibier et au bois, il faut des autorisations. Et donc, même si ce sont des terres qui appartiennent à des propriétaires privés, elles sont sous la juridiction d'autorités spécifiques qui sont une administration forestière qui a tourné à une sorte de prébende. Thompson, parlant du personnel administratif qui a en charge la gestion des forêts royales, parle de sinécuristes, il parle d'affairistes. Il voit dans les actes de braconnage qui attaquent les parcs et les chasses réservées une forme de protestation contre la manière dont l'administration forestière
parle de bureaucratie forestière. Les officiers, les gardes chasse,
tous ces gens-là donc ont resserré leur étau sur l'appropriation des biens de la forêt, et cela a provoqué en retour une protestation des paysans qui se trouvaient privés de l'accès à ce qu'ils considéraient comme tout à fait normal, c'est-à-dire des compléments de revenus pour eux. Et donc il y a une sorte de conjonction entre des incidents qui auraient pu rester purement locaux, un contexte politique général où il est clair que le pouvoir du Premier ministre Walpole, représentant des Whigs, veut frapper les esprits, et on peut considérer que la criminalisation du braconnage et le fait de le rendre passible de la peine de mort est une mesure de terreur, c'est ce que dit Thompson, une mesure de terreur visant à marquer qu'il y a des limites dans les débordements et les désordres à ne pas passer, mais on peut le voir comme une sorte d'aveu de faiblesse de la part du pouvoir.
Mais en même temps, vous montrez qu'il y a là une forme paroxystique, dans le cas des forêts, de quelque chose de plus général, qui est les attaques contre des droits coutumiers, le glanage, le troupeau communal, et que dans le cas des forêts, cela prend une forme paroxystique parce que cette soustraction de cet espace au droit coutumier a pris une forme extrême parce qu'il faut du bois pour la marine et parce qu'il y a aussi cette concession des parcs aux cerfs. Le braconnage ne s'adresse pas seulement à des petits animaux que l'on pourrait utiliser d'ailleurs pour l'alimentation, mais à cette figure fondamentale qui permet à Thompson ces contrastes entre l'économie des cerfs plus importante que l'économie des hommes. Et donc, il y a là un point de cristallisation qui sert en quelque sorte de révélateur de quelque chose de plus profond et de plus général.
Oui, tout à fait. Le cerf est l'emblème du pouvoir aristocratique, et Thompson fait remarquer que dans ces années 1720, on sait parfaitement combien il y a de cerfs dans la forêt royale de Windsor, alors qu'on ignore combien d'hommes y habitent. Et c'est pour lui la traduction d'une forme de hiérarchie des valeurs qui est tout à fait nette. Le cerf, donc, est l'emblème d'un pouvoir qui tend à s'approprier de plus en plus l'espace forestier parce que dans l'aristocratie et les élites anglaises rurales de l'époque, la mode est au champêtre. Et donc, à l'image du roi qui a ses châsses réservées, la fine fleur de l'aristocratie et de la gentry veut avoir ses châsses réservées et aussi ses parcs. Ses jardins d'agrément. Cela suppose de clore, de mettre des clôtures pour protéger ces espaces-là. Et donc, cette constitution des jardins d'agrément au champêtre pour le loisir des élites s'ajoute au phénomène plus général qui est celui de l'enclôture, c'est-à-dire de la volonté de la part des propriétaires fonciers de rentabiliser leurs terres en changeant le mode d'exploitation. Et en mettant ces clôtures, ils privent évidemment les habitants des ressources complémentaires qui existaient depuis de fort longtemps, qui sont inscrits dans ce que les habitants considèrent comme des droits coutumiers qui sont intrinsèquement liés à l'existence de la communauté villageoise. Et donc voilà des paysans qui tout d'un coup sont privés de l'accès à la tourbe, de l'accès aux roseaux, de l'accès au ramassage du bois ou des fruits. Et de tous ces droits d'usage, non seulement sur les terres communales que certains propriétaires envisagent de faire partager, mais aussi sur les terres de tout le monde, puisque une des marques de la solidarité de la communauté villageoise dans les siècles qui précédaient, c'était le fait que chacun, à certains moments de l'année, pouvait accéder aux champs de tous. Et désormais, donc, l'individualisme possessif qui s'affirme à ce moment-là implique une conception de la propriété qui n'est plus un espace soumis à des formes d'appropriation diverses et multiples, mais une propriété unidimensionnelle. Ce qui est à moi, et personne ne peut y entrer.
Et c'est là où le livre prend deux directions, qu'on aura juste le temps d'évoquer, mais je renvoie les auditeurs devenus lecteurs au texte de Thompson. D'une part, pour lui, le premier sens de cette mesure de la criminalisation sous forme de la peine de mort possible pour ces délits, c'est, première phrase du livre, « L'État britannique, tous les législateurs du XVIIIe siècle en conviennent, est né pour sauver la propriété et incidemment la vie et les libertés des possédants. » C'est-à-dire donc une interprétation qui est la sacralisation de la propriété par-dessus toute autre considération morale, sociale. Donc, ça c'est le premier élément. Peut-être qu'il y a, on peut s'y arrêter un temps parce qu'il a pu être discuté, non pas pour récuser ce qu'a avancé Thompson, mais peut-être sur certains points de la démonstration apporter quelques nuances.
Certains historiens ont critiqué Thompson en lui reprochant de minimiser ce qu'était la dimension politique des actes tels que le Black Act et puis toute la législation qui a suivi. Thompson, à leurs yeux, sous-estime ce qu'était l'agitation de l'opposition politique jacobite. Et il y a toute une discussion concernant les liens éventuels entre les braconniers et les partisans des Stuarts qui auraient pu stipendier une partie de comme armée de réserve et armée mobilisable de ces paysans en colère. Ce point est difficile à trancher dans la mesure où les archives, et Thompson a fait un énorme effort pour rassembler la documentation, mais les archives sont très lacunaires et nous disent peu de choses sur cette... Et Thompson craignait manifestement de tomber dans la vision complotiste de l'histoire aussi.
Alors, et en gros, sur cette thèse de la sacralisation de la propriété, si les nuances ont pu être apportées sur le fait, par exemple, que les actes, cet acte de 1723, qui d'ailleurs a été renouvelé plusieurs fois au point de devenir permanent en 1758, n'a pas été nécessairement appliqué très largement, laissant à la discrétion des juges d'autres peines possibles que la peine de mort. Mais il n'en reste pas moins que c'était une forme incorporée dans le droit de ce qu'il appelle, la sacralisation de la propriété.
Tout à fait. Les actes qui suivent, l'inflation législative qui a pu suivre, ne doit pas pas trop impressionné dans la mesure où il s'agit en fait de débiter localement la même chose et de décliner localement les mêmes gestes. Et puis surtout, même si le fait de recourir à la peine de mort a une valeur de terreur et visait à en imposer à la population, de fait, on constate que le nombre des pendaisons n'a guère augmenté et qu'il existait de toute façon déjà un arsenal législatif permettant de punir tous les actes qui sont sanctionnés. Autrement dit, c'est bien la fonction politique et d'affirmation idéologique du pouvoir qui est la plus importante. Et il s'agit de gouverner par la terreur et par l'hégémonie culturelle, la réaffirmation de l'hégémonie, beaucoup plus que par un caractère sanglant, oui. Qui, dans les faits, ne s'est guère accentué, même si, bien sûr, la justice anglaise n'est pas très clémente envers les désordres populaires. Mais tout de même, il ne faut pas exagérer la portée de cette législation sanglante qui a une fonction beaucoup plus idéologique que pratique.
Mais alors du coup, Patrick Sanson, ça nous amène sur le paradoxe final de ce livre, puisque en étudiant une des lois, sinon la loi qui traduit le plus immédiatement, le plus brutalement, les intérêts des dominants, Thompson va conclure son livre sur quelque chose qui aura surpris ses lecteurs, c'est-à-dire en affirmant que le droit, même dans ses formes répressives les plus extrêmes, est un frein, est une limite au pouvoir. Et donc, du coup, va opposer le règne du droit avec l'arbitraire. Je prends juste une phrase. On ne peut donc pas se contenter de désigner la totalité du droit simplement comme une idéologie et l'assimiler entièrement à l'appareil d'État d'une classe dirigeante. Et il ajoute, les rapports de classe ne s'expriment pas n'importe comment, mais à travers les formes du droit. Et le droit a ses propres caractéristiques, sa propre histoire, sa logique d'évolution autonome, à l'instar d'autres institutions qui peuvent être considérées d'époque en époque comme médiatisant et masquant les rapports de classe existants. Alors on retrouve un thème peut-être ici que vous aviez esquissé, c'est-à-dire c'est un des points sur lesquels Thompson se sépare d'une certaine interprétation marxiste, de considérer cette relative autonomie du droit comme un recours et pas simplement comme un frein, mais pas simplement comme une application juste mécanique d'un intérêt de classe.
Alors, cette vision du droit que vous relevez a eu une postérité considérable. Et je vais en donner deux exemples. Premier exemple, dans le mouvement social octobre-décembre 2012, un très bel article de Alessandro Stanziani sur le travail et l'esclavage à La Réunion et à l'île Maurice au XIXe siècle. Et il montre comment à La Réunion et à Maurice aussi, des esclaves affranchis, mais même des esclaves, se sont mis à poursuivre les propriétaires qui faisaient de leur vie, de leur corps, un usage particulièrement outrageant et violent. Et donc, on a pu montrer comment il y a des ressources pour le faible ou les faibles à l'intérieur du droit. Et deuxième exemple, quelqu'un qui a beaucoup lu E.P. Thompson, qui est le sociologue Alain Cottreau, a montré comment les conseils de prud'homme qui naissent en France dans les années 1800 sont assurément un moyen d'assurer le retour au calme après l'ensemble des secousses de la Révolution française, mais finalement apportent des ressources qui sont fondées sur la coutume, sur aussi une vision locale du droit, et pas seulement une vision nationale venue d'en haut, qui permettent aux salariés de faire reconnaître, même par leurs supérieurs que sont les patrons, du fait qu'il y a des limites, et pas seulement des limites, mais il y a aussi des formes positives du rapport entre les membres d'une société.
Mais si Patrick Françon a raison d'inciter, comme vous le faites d'ailleurs vous-même dans votre postface, sur cette postérité de cette intuition, de cette proposition de Thompson sur les usages sociaux du droit et le recours possible pour ceux qui sont dominés d'une législation qui normalement sert les dominants, à l'époque, ça n'a pas été perçu aussi aisément. Et la réception du livre a été surprise par certains des lecteurs Thompson devant cette juxtaposition, il faut bien le dire, assez paradoxale, de l'étude de la loi la plus sanglante, même si elle n'a pas été appliquée aussi rigoureusement, et de l'autre côté, de cette défense du règne du droit.
Thompson montre que le Black Act et la législation qui l'accompagne sont la manifestation d'un pouvoir de classe, celui de la gentry, et la réaffirmation par le recours à la violence de l'appareil d'État du pouvoir des dominants. Donc là, il est dans un vocabulaire marxiste qui rejoint la tradition d'analyse juridique marxiste qui est illustré par les traductions à l'époque où Thompson publie Whigs and Hunters de juristes Pazukanis ou de Franz Jakubowski qui travaillent sur le marxisme et le droit. Mais et donc en même temps, pourtant, Thompson ajoute dans une sorte de remords ou de retour en arrière ou de retour sur soi, sa femme aurait été à l'initiative d'une discussion assez franche concernant ses interprétations, et il revient dans ce qui apparaît comme une sorte de postface qu'il appelle « the rule of law », que j'ai choisi de traduire par « le règne du droit ». Il revient là-dessus en disant « mais attention, il n'est pourtant pas, même si c'est le pouvoir de classe qui s'exprime ainsi, il n'est pas indifférent qu'il exista des formes, c'est-à-dire quelque chose de formel, des formes juridiques dans lesquelles les gens peuvent s'inscrire, et il n'est pas indifférent que la gentry soit obligée de passer par les tribunaux pour s'imposer. » Et là, on sent son anti-stalinisme lorsqu'il dit « le problème, c'est l'arbitraire, attention ». Et le droit, même s'il est un droit au service des dominants, il reste un bien humain inestimable. Et c'est ça que ces commentateurs ou ces lecteurs marxistes de l'époque ont eu du mal à comprendre. Mais ce qu'il disait, au fond, c'est ce que dit Nikos Poulantzas à la même époque, à savoir « les institutions sont une arène dans laquelle rien n'est joué à l'avance et où jouent des rapports de force ». Et donc, il a cette vision agonistique du jeu au sein des institutions qu'on peut appliquer à l'État comme il l'applique au droit. Rappelant que aussi les acteurs de l'époque peuvent s'appuyer sur le droit coutumier et opposer le droit coutumier au droit parlementaire, ou bien il rappelle aussi que certains paysans ont gagné leur procès contre les empiétements commis par la gentry et les propriétaires fonciers.
Oui, je crois que c'est là le point important lorsqu'il lie cette défense du règne du droit avec la coutume et le fait que lorsque cette coutume ne peut plus avoir accès à des procédures juridiques, elle conduit à la transgression. Juste une phrase, quand il n'a plus été possible de continuer le combat par le droit, les gens ont eu le sentiment de faire face à un déni de justice. Les riches avaient obtenu leur pouvoir par des moyens illégitimes. Et donc, se fait cette articulation. Alors, dernier mot, il nous reste 2 minutes, Patrick Fouet-Danson. Thompson, après la guerre des forêts, après Whigs and Hunters, quels seraient les 2 livres qu'on peut retenir de cette dernière période de E.P. Thompson ?
Mais il y a assurément un livre qui va paraître prochainement en français aux éditions Gallimard, Seuil et École des hautes études. Customs in Common, qui revient sur l'ensemble des questions qu'il a soulevées en reprenant un certain nombre d'articles, en les postfaçant à plusieurs reprises, et que Philippe Minard, ici présent, propose d'appeler « Coutumes en partage ».
Et d'autre part, il y avait eu ce livre que nous avions évoqué grâce à John Tavener, le dernier livre de E.P. Thompson, publié après sa mort et qui est consacré à Blake.
Et qui est un livre fulgurant parce que il y a au fond Blake le poète, mais aussi Blake le dessinateur, et il y a une remise en cause de l'ensemble des conceptions du monde par ce livre.
Nous avons encore beaucoup à apprendre en lisant Edward Thompson, dont la réception française a été tardive et regrettable, de façon regrettable, un peu négligée. Mais nous sommes en train de rattraper les choses et de lui rendre toute sa place.
Oh, when I was in love with you, then I was clean and brave. And miles along the wonder grew, how well did I behave. fancy passes by and nothing will remain. And miles around they'll say that I am quite myself again.
Je rappelle que l'émission de cet après-midi a été consacrée au livre de Edward Thompson, La guerre des forêts, lutte sociale dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. C'est un ouvrage qui a été publié par les éditions de La Découverte dans la collection Futurs Antérieurs. Nous l'avons présenté en compagnie de Philippe Minard, qui a écrit une introduction et une postface à cette traduction, et de Patrick Fridançon. La prise de son de cette émission a été assurée par Jehan-Richard Dufour, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire vous seront présentés par Philippe Le Villain, et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richeux.